Territoire d'info, l'actualité en français du Grand Nord canadien, avec Thomas Etier.
Bonjour, ici Thomas Etier, journaliste pour Média Ténois. Bienvenue à Territoire d'info, votre émission hebdomadaire sur l'actualité des territoires du Nord-Ouest. Voici ce qui a retenu notre attention cette semaine. La pénurie d'infirmières au territoire du Nord-Ouest atteint son comble ce mois-ci, alors qu'environ 90 femmes du territoire sont privées des salles d'accouchement de Yellowknife. Selon la ministre Julie Green, un changement de culture devra s'imposer dans notre système de santé. Ma collègue Marie-Soleil Desautels a discuté de la situation avec la présidente de l'Association des sages-femmes des territoires du Nord-Ouest. Un nouveau règlement de zonage proposé aux résidents de Yellowknife pourrait redéfinir le modèle urbain de la capitale au cours des prochaines années. J'en ai discuté cette semaine avec la mairesse Rebecca Alty. Le gouvernement des territoires du Nord-Ouest compte dépenser un montant record, soit 502 millions de dollars, au projet d'infrastructure du territoire pour l'année 2022-2023. Le Centre de thérapie traditionnelle Arctic Indigenous Wellness Foundation a remporté en novembre une distinction internationale pour les plans de son futur centre de bien-être. J'ai pu en discuter avec l'aînée et cofondatrice de la fondation, Bessie Sitaltak. Et finalement, je vous présente un extrait d'entrevue réalisé par mon collègue Thomas Chabot avec M. Alain Saint-Cyr, qui a donné son nom à l'école francophone de Yellowknife.
I'd like to extend my apologies to the families who are affected by this.
La ministre de la Santé et des Services sociaux des TNO, Julie Green, a présenté ses excuses ce mercredi 1er décembre aux familles affectées par la fermeture temporaire du service d'obstétrique de l'hôpital territorial Stanton. En évoquant un changement de culture à mettre en place, Mme Green a assuré en conférence de presse que des mesures seront apportées à court et à long terme afin de contrer la pénurie de main-d'œuvre qui affecte le système de santé des territoires du Nord-Ouest. À l'approche des fêtes, quelques 90 femmes du territoire devront voyager à Edmonton avant ou pendant leur 37e semaine de grossesse et y passer entre 3 et 5 semaines. L'interruption quasi complète des services d'obstétrique de l'hôpital Stanton devrait se prolonger jusqu'au 21 février. La directrice générale de l'Administration des services de santé et services sociaux du territoire, Kim Riles, s'est dite optimiste quant à la réouverture à plein rendement du service d'obstétrique à la date prévue.
Current indications of our staffing levels in the new year are favorable. And so I'm optimistic that we will be able to either adhere to or resume full services as projected.
Les prévisions entourant le nombre d'employés à partir de 2022 sont favorables, a indiqué Mme Riles. Je demeure optimiste et je crois que nous pourrons reprendre les services comme prévu.
We're very aware that morale issues have been building at Stanton and they need to be addressed in a concrete and meaningful way.
La ministre Julie Green a d'emblée convenu que cette situation est causée en partie par des enjeux qui ont affecté le moral des infirmières et provoqué plusieurs départs.
Keeping the incredible professionals and support staff we already have is just as, if not more, important than being able to attract new talent.
Il est aussi, sinon plus important encore, de retenir nos bons employés que d'attirer de nouveaux talents, a-t-elle indiqué. Trois membres du personnel infirmier ont récemment confié aux médias Cabin Radio, entre autres, qu'ils ne sont pas toujours capables d'offrir un ratio de 1 à 1 avec leurs patients. Tous se plaignent du manque d'écoute des patrons.
As minister, I know that we need to improve and we need to do it quickly.
En tant que ministre, je sais que nous devons nous améliorer et nous devons le faire rapidement, a déclaré la ministre.
Culture change takes time, especially across large, multifaceted operations like our healthcare system. But we are committed to doing it and doing it right.
Un changement de culture prend du temps, spécialement lorsqu'on parle d'opérations d'envergure aux multiples facettes, comme c'est le cas dans notre système de santé. Une équipe composée de dirigeants du ministère et de l'ASTNO serait présentement à l'œuvre pour étudier les enjeux qui affectent présentement le moral du personnel, incluant le nombre d'employés par quart, les horaires de travail et la charge de travail. Mme Green a également indiqué qu'elle travaillera avec le ministère des Finances pour discuter des options disponibles afin de s'assurer que les employés actuels restent en poste et que le système de santé des TNO demeure compétitif sur le plan national au moment de recruter. Depuis juin, les efforts de recrutement de la STNO n'auraient permis de recueillir que 7 candidatures pour une seule embauche. Le recours à une firme externe de recrutement en octobre aurait permis de recruter 3 nouvelles infirmières. Le gouvernement aurait également formulé une demande aux provinces et aux territoires pour trouver de la main-d'œuvre, une démarche qui n'aurait pour l'instant donné aucun résultat.
With the Canadian Nurses Association projecting a shortfall of as much as 60,000 nurses by 2022.
Selon Kim Riles, l'Association des infirmières et infirmiers du Canada prévoit une pénurie de 60 000 infirmières d'ici 2022 à travers le pays.
That shortage is here and we're living in it.
22 % des postes d'infirmières à l'hôpital territorial Stanton seraient présentement vacants. Le gouvernement des TNO a dû se défendre sur plusieurs fronts après avoir annoncé réduire les services obstétriques à l'hôpital territorial Stanton. L'Association des sages-femmes des TNO a pris la parole au cours des derniers jours. La présidente déplore que le gouvernement ait négligé l'embauche qui était pourtant prévue de 4 sages-femmes à Yellowknife, ce qui aurait, selon elle, contribué à renforcer les services existants. Marie-Soleil Desautels est au bout du fil. Elle signe cette semaine un article sur le sujet dans le journal L'Aquilon. Marie-Soleil, selon l'association, là, en quoi est-ce que l'embauche de sages-femmes à temps là, aurait pu permettre d'éviter cette situation à l'hôpital Stanton?
Je mettrais d'abord les choses en contexte. Fin mars, le gouvernement des territoires du Nord-Ouest s'était engagé à investir 600 000 $ dans le programme territorial de sages-femmes, ce qui devait couvrir, entre autres, ces postes. 2 des postes ont finalement été affichés le 15 novembre dernier et les 2 autres ne le seront qu'en 2022, bien que le financement soit disponible depuis juin. Heather Enrich, présidente de l'Association des sages-femmes des territoires du Nord-Ouest, disait qu'il était difficile de savoir si oui ou non l'embauche des sages-femmes aurait permis d'éviter cette situation-là. Mais cela dit, elle disait aussi ignorer pourquoi l'administration des services de santé et des services sociaux des territoires du Nord-Ouest vient tout juste, dans le fond, de commencer à recruter en conférence de presse. Le 1er décembre dernier, la directrice générale de l'administration des services de santé et des services sociaux du territoire, Kim Riles, a expliqué cet échéancier par les efforts de description de postes qui auraient été entrepris à partir de juin 2021. Son équipe aurait obtenu une approbation de dernière minute du gouvernement en juin pour les 2 premiers postes. Elle n'aurait pas été prête à les afficher avant novembre, en fait. Dans tous les cas, la ministre de la Santé, Julie Green, est d'avis que l'embauche de sages-femmes n'aurait pas résolu le problème. Lors d'un échange à l'Assemblée législative jeudi dernier, 25 novembre, elle a répondu à la députée de Great Slave, Katrina Nokelby, que le champ de pratique des sages-femmes est différent de celui des infirmières obstétriques. Mm-hmm. La ministre de la Santé a plaidé que même si le gouvernement avait affiché les postes de sages-femmes et qu'ils avaient été assez chanceux pour les avoir tous pourvus, on serait dans la même situation aujourd'hui à cause du manque d'infirmières obstétriques. Elle a rappelé que sages-femmes et infirmières obstétriques ne sont pas interchangeables. Selon le gestionnaire de communication de l'ASTNO, David McGuire, les 4 futures sages-femmes de Yellowknife vont servir les familles à travers tous les TNO. Cela signifie que la plupart du travail de cette équipe sera à l'extérieur du milieu hospitalier, dans les communautés et les maisonnées. La présidente de l'Association des sages-femmes des territoires du Nord-Ouest, Heather Henrich, admet toutefois que les sages-femmes qui opéreraient dans le système hospitalier ne changeraient pas nécessairement le nombre d'infirmières nécessaires. Et que lorsqu'il y a des sages-femmes sur le plancher et un pic d'activité ou alors s'il y a moins d'employés, c'est à ce moment-là que les sages-femmes peuvent aider à combler les lacunes.
Donc, bref, les sages-femmes sont bien conscientes qu'elles ne peuvent pas remplacer les infirmières, mais elles souhaiteraient être là pour les appuyer dans leur travail. Parce qu'il semblerait que les lacunes sont nombreuses au service d'obstétrique de l'hôpital Stanton, Marie-Soleil.
La députée de Kamloops, Kathleen Cleveland, a plaidé leur cause jeudi dernier à l'Assemblée législative. Elle a dit que les demandes des infirmières obstétriques à la suite de réunions, de sondages ou d'examens restaient ignorées, que les infirmières ont exigé une 4e professionnelle par corps de travail et que les gestionnaires ont refusé à cause du taux de naissance plus élevé. La députée a rappelé que les gestionnaires refusent aussi des congés aux infirmières, du temps partiel et que les longs corps de travail ne leur permettent pas de concilier travail-famille. C'est dans ce contexte difficile que les sages-femmes auraient pu aider, croit la présidente qui les représente, Heather Henrich. Elle est d'avis que la charge de travail sur les infirmières serait très différente puisque la sage-femme est avec son client durant le travail. Selon Mme Henrich, là où il y a des sages-femmes, les services d'accouchement sont plus stables. Elle dit que l'un des buts du programme territorial de sages-femmes a toujours été de renforcer et d'augmenter la stabilité des services d'accouchement à travers le territoire en incluant les sages-femmes dans une équipe interprofessionnelle. La présidente de l'Association des sages-femmes rappelle qu'un accouchement à distance, c'est loin d'être idéal, ni pour maman, ni pour bébé. Elle souligne que ça crée de l'anxiété avant et après l'accouchement, que ça accroît le risque de dépression, que ça sépare des familles parce qu'on sait qu'il y a des enfants qui sont laissés derrière quand les parents doivent aller à Edmonton, enfin au moins la mère aller à Edmonton pour accoucher. Et c'est sans parler du fardeau économique que ça représente, évidemment.
Oui, parce que cette histoire-là, ça va coûter très cher aux Ténois, Marie-Soleil.
Oui, seulement pour les indemnités de déplacement, il faudra compter environ 12 500 $ pour la patiente et son accompagnant pour aller à Edmonton et séjourner 28 jours. Ces frais n'incluent pas les coûts des services hospitaliers en Alberta. Donc, ça ne coûte pas les frais des médecins, des interventions, etc. Là. C'est seulement pour le vol, les vols, les indemnités pour l'hébergement, le transport et le repas pour les deux personnes. Bref, ça dépasse 1 000 000 $ seulement en indemnités de déplacement.
Oui, c'est quand même un détail important. Pour l'instant, évidemment, on pense surtout aux femmes et aux familles qui sont affectées. Marie-Soleil, vous avez recueilli des témoignages. On peut lire tout ça cette semaine dans le journal L'Aquilon. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui.
Bien à vous.
La municipalité de Yellowknife souhaite repenser le développement de ses secteurs résidentiels, agricoles et commerciaux pour, en quelque sorte, redéfinir son paysage urbain pour les prochaines générations. C'est une vision qui dépend de l'adoption d'un tout nouveau règlement de zonage. Règlement de zonage qui a été soumis le week-end dernier aux éloges, mais également aux critiques de résidents qui étaient rassemblés dans le cadre de consultations publiques. J'ai au bout du fil la mairesse de Yellowknife, Rebecca Alty. Bonjour, Madame Alty.
Bonjour, Thomas. Comment ça va?
Ça va très bien, vous?
Oui, merci beaucoup.
Madame Alty, avec ce nouveau règlement de zonage, on souhaite, entre autres, là, densifier les secteurs résidentiels. On veut y inclure certaines activités commerciales, permettre certaines activités d'agriculture urbaine. C'est dit en très bref, là, Madame Alty, si ce plan est adopté, quel sera le Yellowknife du futur? Là, dans quel type de capitale est-ce qu'on va habiter dans 20 ans, disons, en 2041?
Bien, ce qu'on veut vraiment, c'est d'avoir plus de maisons parce qu'il y a, ben, il y a des gens sans abri, il y a des élèves comme à l'école secondaire qu'on veut venir à Yellowknife. On veut que Aurora College devienne plus, à plus de programmes. Et s'il y a plus de programmes, on a besoin de plus de maisons. Donc, on veut avoir plus de différentes maisons aussi, donc pas seulement des maisons toutes seules où il y a peut-être des duplex ou peut-être il y a comme une maison et il y a comme une secondary suite en arrière. Donc ça, c'est la première chose. Et on veut aussi avoir de la diversité d'emplois ici et des différents commerces. Donc on veut encourager plus d'agriculture pour que les gens, si c'est seulement pour eux-mêmes ou si c'est plutôt quelque chose de commercial. Donc, il y avait beaucoup de changes pour qu'on peut avoir plus de diversité de maisons et aussi des commerces.
Certaines personnes parlaient, entre autres, là, de s'aligner à certaines tendances qu'on observe dans les provinces du Sud, par exemple. Est-ce que c'est de ça dont il s'agit et de quelle tendance est-ce qu'on parle ici?
Bien, je pense que c'est des changes qui vont avec du temps. Donc, dans les 1960, il y avait un changement où les gens ont commencé, au lieu d'avoir des maisons et des commerces ensemble, comme ils ont commencé à faire les suburbs. Et maintenant, en 2021, on retourne vraiment comme en avant, où tu peux avoir comme une maison et un petit café dans le même endroit. Au lieu d'avoir des suburbs et c'est seulement des maisons là, et puis il faut conduire à autre partie de la ville pour faire tes marchandises. Dans ce nouveau règlement, on veut avoir plus de diversité dans les endroits pour que les gens ne doivent pas conduire partout à Yellowknife pour, tu sais, habiter là, l'école est là, les magasins sont là. Donc, on veut avoir plus de diversité dans nos neighborhoods.
Plus diversité dans les banlieues, là.
Oui. Exactement.
La rencontre de samedi dernier a attiré une grande proportion de réfractaires. Est-ce qu'il y a des éléments de ce nouveau règlement de zonage que l'administration municipale devra revoir, selon vous, là? Certains points qui passent mal du côté des résidents, certains points qui risquent de ne pas passer au conseil municipal?
Bien, on a entendu les deux différentes sections. Tu sais, il y avait des gens qui ont dit « oui, j'aime ça beaucoup » et les autres gens ont dit « je ne sais pas, je pense que des fois, ils ne supportent pas le changement, mais des fois, ils ont dit « je pense qu'il y a plus de règlements doivent être associés avec ça. » Et quand je pense à comme l'agriculture, ça, c'est une chose. Et les gens ont dit « oui, j'aime ça » et les autres gens ont dit « oui, j'aime ça, sauf je pense que ça va les cochons ou des grands animaux ne devraient pas être inclus. Donc, je pense qu'on peut faire des changements. Je suis certaine qu'on va changer quelque chose pour adresser quelques points qui étaient levés samedi, mais tu sais, chacun de nous a une différente idée de quoi on veut que nos banlieues se semblent. Donc, c'est difficile de satisfaire les gens 100%.
C'est un point qui a été abordé samedi dernier, là, avec tous les efforts entourant ce nouveau règlement de zonage-là. Est-ce qu'on risque de négliger la revitalisation du centre-ville de Yellowknife, Mme Alty?
Non, on a parlé beaucoup de ça samedi. Et il y a des différents magasins qui sont mieux au centre-ville, il y a des différents magasins qui sont à Cam Lake et il y a des différents magasins qui peuvent être dans les banlieues. Donc, on voit que chaque place dans Yellowknife a comme une meilleure chance pour certains magasins. Donc, on veut augmenter les différentes places que les magasins peuvent aller, mais je ne pense pas que ça va être à le détriment de la centre-ville.
Et pour terminer, Madame la mairesse, ce nouveau règlement de zonage doit passer par le vote du conseil municipal. On pourrait croire avoir les derniers débats, les débats de cet automne, Madame Alty, que l'adversité entre les conseillers municipaux a atteint des niveaux qu'on n'avait pas encore observés. Il y a eu des débats assez passionnés au cours des dernières semaines, là, et c'est le moins qu'on puisse dire. Est-ce qu'on appréhende le ton des débats qui vont entourer l'adoption ou le rejet de ce nouveau règlement de zonage?
Je pense que on verra parce que je pense qu'il y a. On veut que tout le monde ait une maison ici à Yellowknife. On veut que des magasins, le commerce peuvent agrandir ici à Yellowknife. Et donc, je ne pense pas qu'on est trop loin entre nous. Des différentes opinions à propos de ça. Donc, je pense que la discussion à propos de le budget la semaine prochaine sera probablement plus difficile que la discussion à propos de le règlement qui va venir dans la nouvelle année.
Oui, on va les suivre, ces débats-là. Et donc, on n'appréhende pas de nouvelles excuses publiques dans les prochaines semaines, Mme Alty?
Non, j'espère que... je sais qu'on a des difficiles... décision à faire, mais je pense que tout le monde veut la même chose. C'est une Yellowknife qui est le mieux que ça peut être. Des fois, on a des différentes façons à tenir cette vision, mais je pense qu'il faut qu'on se souvienne que vraiment on est ici tout pour la même raison et je suis certaine que ce sera, on va finir dans une bonne place.
Rebecca Alty, mairesse de la municipalité de Yellowknife. Il y a longtemps qu'on vous avait invité sur nos ondes. Comme toujours, vous avez répondu à l'appel. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui.
Pas de problème. Merci beaucoup.
Le ministère des Finances des Territoires du Nord-Ouest présentait le 24 novembre dernier le budget que le gouvernement entend consacrer aux infrastructures du territoire pour la prochaine année fiscale. Avec un total atteignant les 500 millions de dollars, il s'agit du budget en immobilisation le plus élevé jamais proposé à l'Assemblée législative. Environ 60 % de ce budget préliminaire, soit près de 300 millions de dollars, est alloué au ministère de l'Infrastructure, un montant qui sera donc consacré notamment au développement du réseau routier dans les régions du Mackenzie ou encore à l'expansion du réseau hydroélectrique Tolleston.
I want to say that I'm actually pleased to see a large infrastructure investment going forward. One thing when economies are bad that governments do is they build infrastructure.
Je suis heureuse que d'importants investissements soient mis de l'avant en infrastructure, a affirmé la députée de Great Slave, Katrina Nocholbi, après avoir entendu les arguments adverses de la part de ses collègues. Une chose que fait le gouvernement lorsque l'économie va mal, c'est de construire des infrastructures. C'est une manière de garder les gens des territoires du Nord-Ouest à l'emploi pour un bon moment, dit-elle, alors que la COVID-19 rend notre futur incertain.
New infrastructure means new things for indigenous governments and private industry. And this is the way to go.
De nouvelles infrastructures signifient de nouvelles choses pour les gouvernements autochtones et le secteur privé, a par la suite indiqué la députée de Tebacha, Frida Marcellus. Deux députés ont déploré que trop d'argent soit consacré à la construction de nouvelles routes et pas assez pour s'assurer de fournir des habitations adéquates aux résidents des collectivités. Un montant de 10,6 millions de dollars est alloué dans ce budget préliminaire à la Société d'habitation des TNO, qui gère les dépenses gouvernementales liées notamment à la construction et à la rénovation de logements.
I voted against the last capital budget and I intend to do so again on this one.
J'ai voté contre le dernier budget en immobilisation et j'ai la même intention pour celui-ci, a déclaré le député de Frame Lake, Kevin O'Reilly, en ouverture du débat.
I think we are spending too much money on capital.
Monsieur O'Reilly déplore une mauvaise allocation des fonds et souligne que l'accès au logement figure parmi la liste de priorités établie par la 19e Assemblée législative.
The minister said yesterday $150 million in this budget alone is for roads and this budget shows us spending $10.6 million on housing. When housing is a priority for this assembly, this is completely out of balance.
150 millions dans ce budget seront consacrés aux routes, souligne-t-il, et ce budget n'affiche que des dépenses de 10,6 millions pour le logement, alors qu'il s'agit d'une priorité de cette assemblée. M. O'Reilly déplore par ailleurs que le gouvernement dépense encore une fois au-dessus de ses moyens et dit craindre que les Ténois ne croulent sous les dettes accumulées auprès du gouvernement fédéral.
We're going into debt. At a greater rate than any other any time that I've ever seen in my 6 years and past governments as well.
Nous nous endettons plus rapidement que tous les gouvernements avec lesquels j'ai siégé dans cette assemblée, indique Kevin O'Reilly. Le député de Yellowknife Nord, Rylan Johnson, a repris les points soulevés par son collègue. Les deux députés avaient sévèrement critiqué à l'hiver 2021 les dépenses proposées par le gouvernement lors du dépôt du dernier budget territorial.
It's a way that we can keep people in the Northwest Territories employed over the next while.
La députée de Great Slave, Katrina Nocholbi, s'est réjouie des investissements prévus pour le réseau routier, dont les chantiers apporteront, selon elle, de l'emploi, des contrats et des ressources dans les collectivités. Madame Nocholbi a relevé l'absence de routes permanentes dans certaines régions, une réalité qui, selon elle, affecte, en fin de compte, le prix du logement.
Not having roads only creates more expense for our territory to build houses. So if we have the roads to move the materials around easier, it will be easier for us to build houses in the long run.
En ayant des routes pour déplacer plus facilement les matériaux, a-t-elle indiqué, il sera plus facile de bâtir des maisons à long terme. Ce budget préliminaire passera par le vote des députés d'ici la fin de la présente session de l'Assemblée législative en décembre. Du montant total, 216 millions proviennent de financements du gouvernement fédéral. Le Centre de guérison traditionnelle de Yellowknife, Arctic Indigenous Wellness Foundation, a remporté en novembre un prix de 50 000 $ de la Fondation Allseam, qui récompense chaque année des projets de construction durable à travers le monde. Le design du futur centre de guérison est arrivé en deuxième position parmi les 250 projets inscrits dans la catégorie nord-américaine du concours. Une délégation de l'Arctic Indigenous Wellness Foundation s'est rendue à Venise, en Italie, pour accepter le prix qui a été remis le 13 novembre dans le cadre du gala biannuel de la Fondation Allseam. Les 50 000 $ seront consacrés entièrement au projet de construction du centre, dont le chantier pourrait être mis en branle au cours de la prochaine année. La Fondation Allsim a notamment reconnu le travail collaboratif qui a mené à l'élaboration du design de ce futur centre de guérison. Si les plans sont signés par l'architecte Mason White de la firme torontoise Lateral Office, ils ont été créés avec la participation d'aînés des quatre coins du territoire, en plus d'experts du système de santé des territoires du Nord-Ouest et de jeunes autochtones.
Boy, we ever had fun that day. Oh, we had so much fun.
Ce sont les mots de l'aînée et thérapeute Bessie Sitaltak. Oh, comme nous nous sommes amusés ce jour-là. Assise dans son espace de guérison, celle qui est également cofondatrice de l'Arctic Indigenous Wellness Foundation décrit un projet élaboré pour les gens du Nord par les gens du Nord. C'est elle qui, avec son équipe, a rassemblé les aînés du territoire pour organiser les ateliers de création.
And Mason brought all kinds of blocks, wood blocks. So all of us elders divided ourselves and to see which building would be the best, or could we combine some of the buildings that we to put together.
Comme l'explique Bessie Sitaltak, l'architecte a apporté toutes sortes de blocs de bois et les aînés qui ont participé à la création du design ont eu l'occasion d'agencer les différentes structures imaginées pour le futur centre et ainsi de créer l'édifice qu'ils avaient en tête. Cet édifice sera construit aux abords du lac Frame, à proximité de l'hôpital territorial Stanton de Yellowknife.
So in this whole healing center, it's for the Inuit people. Also for Dene people and for Inuvialuit people. So those are the main people that come to this camp. And it's just absolutely beautiful. Every week, groups of community people come.
Ce centre sera consacré aux Inuits, aux Dene et aux Métis du Nord, mais nous acceptons tout le monde, explique Madame Sitaltak.
So we want to make sure that all the people, that First Nations, Indigenous people in the hospital, could come over during the daytime so they could spend time at our healing camp. So if they want to get healing, we'll be able to do that.
Nous voulions aussi nous assurer que toutes les personnes autochtones qui se trouvent à l'hôpital Stanton puissent s'y rassembler. S'ils le veulent, nous pourrons leur offrir une guérison. Les plans de l'édifice incluent trois modules interconnectés consacrés au volet éducatif de l'organisme, au rassemblement et aux consultations traditionnelles.
On the outside, we want to build a huge round building outside. We call that smokehouse. We can get all kinds of meals. We can have fire burning in there. So our people like to cook over fire. You know, other things, tools there for them to make dry meat and dry fish.
À l'extérieur, poursuit-elle, nous voulions bâtir un immense bâtiment que nous appelons le fumoir, un bâtiment dans lequel nous alimenterons un feu pour cuisiner et fournirons tous les outils nécessaires pour préparer la viande et le poisson sec.
We want to do everything as traditional as possible on this whole building.
L'Arctic Indigenous Wellness Foundation a pour mandat d'offrir des services et pratiques de guérison traditionnelles et autochtones dans le Nord. Comme on peut le lire sur le site web de la Fondation, l'équipe s'engage à travailler avec ses patients, avec les travailleurs de la santé, les chercheurs et les politiciens pour assurer un accès équitable pour tous les résidents du Nord à des services de bien-être de qualité basés sur la tradition. Pour ses 35 ans, le journal L'Aquilon s'offre un balado qui retrace les grands événements et les personnages qui ont marqué ses pages au fil des ans. Thomas Chabot s'est entretenu pour l'occasion avec M. Alain Saint-Cyr à propos des années qui ont précédé l'ouverture de l'école francophone de Yellowknife, qui porte aujourd'hui son nom. Certains auditeurs se rappellent sans doute qu'à l'époque, un groupe de francophones a mené un combat pour l'accès à une éducation en français au territoire du Nord-Ouest. On écoute Alain Saint-Cyr.
Quand l'école Saint-Cyr a été fondée, là, j'étais parti de Yellowknife. Mon combat, c'est un combat, c'était vraiment un plaisir de j'étais arrivé à Yellowknife avec ma femme, on n'avait pas d'enfants, etc., mais il y avait du français dans la rue, tu sais, mais on n'était pas organisé. Ça fait que j'ai un petit peu naïf, là, et puis j'ai dit, bon, on va mettre une petite annonce dans le Yellowknife, réunion des francophones, à telle place. à tel soir. Et puis, j'avais aucunement l'intention de me trouver d'un coup président d'une association. Ça fait que j'arrive là, on était une bonne trentaine de personnes. Ça fait que je joue avec un petit discours de circonstance. Et d'un coup, quelqu'un me dit, bon, OK, je nomme Alain Saint-Cyr comme et président ou quelque chose de bien. Puis d'un coup, j'étais surpris. Je voulais amasser les choses, là, tu sais, mais je voulais pas vraiment être président au national. D'un coup, ben, en tout cas, c'est ça qui est arrivé. Puis, d'un coup, il y a Joanne Deneau qui est devenue secrétaire, puis Mme Burns qui était la trésorière, et il y avait Mme Walsh qui était la secrétaire. Ça fait qu'on a surtout axé nos activités sur des activités culturelles. Là, une fois par mois, on a activité de Noël, on avait un souper progressif, puis ça allait des rencontres avec les francophones, une cabane à sucre, une cliché de blé d'Inde, des affaires de même. Mm-hmm. Et puis, commencé à avoir des enfants, j'ai dit, hey, je veux que le français dans le second, c'est pas assez fort pour nos enfants, là, puis mes enfants qui s'en viennent. Là. Et dans le système, j'ai dit, ben, il y aurait peut-être un intérêt d'avoir une école d'immersion. C'est-à-dire que je suis approché avec un comité, la conscience qu'elle est publique, qui a accepté de faire une classe d'immersion pour lui qui avait des élèves, tu sais. Ça fait tout le cabalage que je faisais, puis rencontrer des parents pour les intéresser à une... Je voulais que ça commence à la maternelle, mais il n'y avait pas assez de candidats pour la maternelle. Il y avait assez pour une quatrième année. OK. La commission scolaire a dit, OK, on va faire une quatrième année. Immersion, ça fait que ça a commencé avec, on se pense qu'il y était une vingtaine qui étaient en quatrième année, que les parents ont dit oui, on va placer nos enfants en immersion.
Quand même.
Ça fait que l'école française, le concept n'existait pas vraiment à ce temps-là. On ne parlait pas d'école francophone à ce moment-là. T'sais? Alors, puis d'un coup, mes enfants approchaient la maternelle, puis j'ai dit, le programme tardif de quatrième année, c'est pas assez ce que je veux. Alors, on retournait avec un petit comité de parents, la commission scolaire, j'ai dit, est-ce qu'on pourrait commencer avec une maternelle francophone, disons, une école d'immersion maternelle. La commission scolaire publique a dit non. Je le sentais déjà qu'ils étaient pour dire non à une maternelle en français, mais j'ai commencé à préparer les commissaires de l'école catholique. Et puis, arrivé ma année, quand la commission scolaire publique a dit non, j'ai tourné d'abord, je suis allé voir les catholiques. De toute façon, j'avais préparé un peu les catholiques, les surintendants, les conseillers, là, parce que j'étais tout à l'heure. Tu sais, il y en a, il faut être bien avec tout le monde.
Effectivement.
Et puis, en tout cas, je me présente à une réunion au mois de mai, évidemment. Et puis, j'ai dit, OK, on va l'accepter, on va le faire en maternelle d'immersion. Mm-hmm. Et ça a commencé avec ma fille, elle était dedans. Là, je pense qu'on était encore une vingtaine d'élèves qui avaient commencé à Saint-Joseph. Ça. Alors, j'étais président de l'association franco-ténoise. Le mot ténois, c'est de mon invention. J'ai demandé une fois, on ne va pas s'appeler l'association franco-territoriale. C'est toute une bouchée. Hein.
C'est long.
Ah oui, ça fait que j'ai dit T-N-O. Pourquoi est-ce qu'on ne met pas T-E accent aigu N-O-I-S? Ça a été accepté, puis c'est là d'où l'origine du mot ténois arrive.
C'est resté pendant plus de 30 ans quand même, ce mot-là.
C'est tout pour cette semaine. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Surtout, revenez-nous la semaine prochaine. Ce sera déjà la dernière émission Territoire d'info de l'année 2021. Je suis Thomas Étier, journaliste de l'initiative du journalisme local pour Média Ténois. Passez une excellente fin de journée.
Territoire d'info. Une émission de l'initiative du journalisme local financée par le Fonds canadien de la radio communautaire.